Du récit, n'est-ce pas, pour expliquer ce fameux combat entre un jeune homme et un géant. Le titre de mon message ce matin, c'est « La victoire de la foi face au géant de la vie ». Est-ce que vous n'avez pas dans votre vie des géants à combattre? Ou est-ce que déjà il ne vous est pas arrivé de combattre des géants? Comment le faisons-nous ou comment l'avez-vous fait? En fait, dans les premiers versets qui ont été lus, dans les trois premiers versets, on regarde le contexte un petit peu de cette bataille. Il y a une guerre entre Israël et les Philistins. Pendant des années, il y a eu guerre entre Israël et les Philistins. Et en fait, elles se font face à face et la bataille n'est pas enclenchée parce qu'il y a un géant qui sort. Et qui lance un défi à Israël, on l'a lu, et qui provoque la peur et la crainte et la frayeur dans le peuple d'Israël et l'armée. Vous savez que les armées, dans le passé, ont cette stratégie, je ne vais pas citer certaines guerres, d'envoyer des prospectus pour décourager le peuple à combattre, n'est-ce pas, pour essayer, ainsi d'apporter frayeur afin que la conquête, n'est-ce pas, puisse se faire avec toute autorité et puissance. Et cela montre quelque part une première illustration de notre vie chrétienne. Nous aimerions bien que la vie chrétienne soit un fleuve tranquille. Nous n'aimerions pas, quelque part devoir combattre. Combattre qui, quoi? Nous avons des luttes, nous avons des adversités, et cela illustre que la vie chrétienne, même si on ne le désire pas, est l'objet d'un combat spirituel parce que le diable existe. Et je pense à ce verset en psaume 121, à partir du verset 2, il dit, Cantique des degrés, je lève mes yeux vers l'Éternel, vers les montagnes, excusez, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La façon avec laquelle nous regardons les géants de notre vie et la victoire qui est la nôtre va dépendre de la façon avec laquelle nous regardons à Dieu lui-même. La victoire de notre vie dépend de la façon avec laquelle nous voyons Dieu. Et si nous voyons Dieu, notre Père céleste, comme un Père tout-puissant, alors la victoire est la nôtre. Quelle est la victoire de votre foi? Nous allons regarder, Dieu voulant, le contexte et les caractéristiques de la foi victorieuse de David et on se posera trois questions. Alors vous allez me dire, mais qui était ce Goliath? Goliath, c'était le champion des Philistins. Sa stature était incroyable. Il mesurait exactement 3 mètres 57 d'après les calculs qui ont été faits. Il avait une cuirasse de 5000 sicles, 60 à 80 kilos selon les estimations. C'est-à-dire que ce géant pesait en estimation entre 270 et 340 kilos. Rien que sa lance pesait 7 à 10 kilos, et il lançait ce défi pendant 40 jours, jour après jour, face à Israël et l'armée, et nous l'avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Il disait, s'il peut me battre, Philistins, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Ce sort effrayait Israël. Et puis, dans notre vie chrétienne, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé à penser que l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, le fardeau que vous avez est trop lourd et qu'en fait vous vous sentez esclave ou prisonnier d'une adversité ou d'une situation qui vous dépasse. Alors j'ai trouvé sur Internet quelques images, n'est-ce pas, qui illustrent un peu ce que nous pouvons ressentir par rapport aux géants qui nous écrasent. Vous avez ici l'illustration, n'est-ce pas, de petits et de grands et de gros. Des petits qui font face à des géants, n'est-ce pas, et on est sûr que dans ce combat, l'issue, n'est-ce pas, sera pour le plus fort. Donc, Israël est dans la frayeur. Saül avait été loin de l'Éternel. C'était un roi très haut de taille, nous était dit, mais évidemment, il n'était pas aussi haut que ce géant. C'est un roi qui avait été, en fait, destitué parce que désobéissant à Dieu. Et Dieu, nous était dit, dans les chapitres précédents, avait retiré son esprit du roi Saül. Alors que Samuel, pleurant sur ce roi parce qu'il avait oint, a été appelé par Dieu à oindre un jeune homme issu d'une famille dont on a parlé ici dans ce chapitre, qui est David. Et David a été oint de Dieu à un jeune âge et a reçu le Saint-Esprit. Ici, David, dans cette histoire, il est écrit dans le mot hébreu « enfant ». Le mot hébreu, en fait, pour qui désigne le mot « enfant » plutôt, peut aller de 0 à 20 ans. Mais on pense ici que David avait quelques-uns, on dit 14 ans, c'est plutôt entre 17 et 20 ans. Donc David, un jeune homme, n'est-ce pas, un jeune adulte, se trouve face à un géant. Mais le combat est déjà perdu. Donc David, pour avoir cette victoire, a montré une foi assez extraordinaire. Ce qui me touche, et j'ai choisi ce passage ce matin parce que ma chère épouse et moi, nous lisons tous les matins la Bible, et nous sommes tombés sur ce passage. Et j'ai été vraiment particulièrement rafraîchi et béni en méditant avec ma chère épouse ce passage, et j'ai dit, je vais le prêcher. J'ai pas souvent prêché David et Goliath. Mais je trouve que c'est une histoire extraordinaire qui montre que Dieu est souverain. Et face à l'adversité de nos vies ou les géants qui sont en face de nous, Dieu a une solution. Dieu a une solution pour nous donner la victoire sur les géants auxquels on fait face. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons un peuple vainqueur. Alors, nous allons regarder les caractéristiques ou les biens de la foi victorieuse de David. La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'en fait, face à ce peuple, face à Goliath, le peuple d'Israël semble déjà avoir la partie perdue. Mais vous savez, parfois au moment où nous sommes dans une crise, ou un moment des plus difficiles, Dieu intervient tôt ou tard. Et on voit que Dieu suscite, par des circonstances particulières, d'envoyer son fils David pouvoir visiter ses frères. Et c'est ainsi que par ces circonstances où David ne s'attend pas du tout à être pris par Dieu comme celui qui va accorder la délivrance en Israël, Dieu a suscité un libérateur. Et nous devons croire au fond de nos cœurs, parce que si nous avons accepté Jésus-Christ, que Jésus-Christ, notre libérateur, peut nous libérer de tout fardeau. J'oublie de demander la permission à ma femme, et je pense qu'elle va me l'accorder. Ma femme a eu une expérience très traumatisante en voiture. C'est pas moi qui conduisais, hein. Mais elle a eu un accident traumatisant, puisqu'en visite en Amérique du Sud avec son frère et sa maman, son frère conduisant dans les montagnes, la voiture que son frère conduisait a perdu les freins. Alors c'est bien de vérifier avant peut-être, mais il a perdu les freins. Et Louis a vu cette voiture dans les montagnes, n'est-ce pas, sans frein, conduite par son frère. Elle a eu une peur bleue, pour exprimer ainsi. Et chaque fois que nous voyageons ensemble pendant des années, ma femme, quand je conduis, regarde sur le côté, et quand elle voit que c'est profond, précipice, comme elle a vécu en Amérique du Sud, elle a une peur, mais terrible. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des peurs, des phobies, des traumatismes psychologiques ou peu importe. Et un jour, par la foi, après des années, n'est-ce pas, de ce trouble, par la foi, chaque fois je compatissais avec mon épouse, mais sans puissance, n'est-ce pas? Un jour, j'ai prié Dieu. Et j'ai dit, en présence de ma femme, j'ai dit, Seigneur, je te demande de libérer mon épouse de sa peur au nom de Jésus-Christ. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu l'a fait. C'est merveilleux. Pendant des années, n'est-ce pas, soumis à une peur et une crainte, et libéré par la puissance de Jésus, notre libérateur. Peut-être faites-vous face à des difficultés, nous en parlerons en application de ce message, qui vous semblent impossibles à franchir, des obstacles qui vous semblent impossibles à passer. Regardez David, face au géant, comment il a combattu avec les armes de Dieu, non pas les armes humaines, mais les armes de Dieu. Alors, la première caractéristique de la foi victorieuse de David, au verset 26, après avoir entendu le peuple dire et expliquer, n'est-ce pas, ce Goya qui vient, alors en québécois on dirait bavé, je ne sais pas si on a cette expression trop ici dans la région, mais provoquer et mépriser l'armée d'Israël. La première chose qu'on voit au verset 26, la réaction de David est complètement différente du peuple. Il dit, qui est ce donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Voyez-vous, tout un peuple, toute une armée aguerrie, des hommes vraiment très doués dans l'armée, comme des soldats professionnels, qui ont la crainte à cause d'un homme, un géant qui arrive et qui provoque, n'est-ce pas, et méprise en jetant un défi. Et David, lui, il arrive, un jeune homme, tiré de ses brebis, parce qu'il est un berger. Il voit ce Philistin, il observe, il voit le peuple, et lui prend position. C'est la différence entre voir les circonstances et se laisser imprégner par la peur ou la frayeur, et voir les circonstances avec la foi et les yeux de Dieu. David ne s'est pas laissé impressionner par cette montagne qui était devant lui. Jésus nous a dit, dans l'Évangile, si vous lisez l'Évangile, si vous aviez foi, vous diriez à cette montagne, jette-toi de là. Et ça arriverait. Voyez-vous, c'est une question de foi dans nos adversités. Mais la première chose que je voudrais souligner, c'est que David ne s'est pas arrêté aux apparences. Il regardait les choses avec les yeux de la foi et il a vu complètement différemment de tout un peuple. Et même du roi Saül, qui était le chef du peuple. Ensuite, il arrive donc devant ses frères, à qui il apporte la nourriture ou les choses que le père lui avait demandé d'apporter. Et là, il fait face à un frère jaloux, plein de colère, méprisant, accusant faussement David d'orgueil et le traitant de méchant. En fait, il remet en cause l'attitude de David, il remet en cause sa motivation. Savez-vous quoi ? Que la chair, même des croyants, peuvent s'opposer à la foi du chrétien spirituel. Et dans notre propre vie, on sait que c'est notre chair, n'est-ce pas, et l'incrédulité qui combat la foi de Jésus que Dieu veut nous transmettre. L'ennemi a pour but de nous démotiver. Et si ce matin, il y avait quelqu'un parmi nous qui est démotivé dans sa foi, posez-vous la question, pourquoi? L'ennemi veut nous décourager, nous démotiver. Alors, relevons-nous et servons le Seigneur avec joie. Le deuxième obstacle, c'est pas n'importe qui, c'est le roi lui-même à qui on présente David. Le deuxième obstacle, c'est le roi lui-même, Saül, qui dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Là, Saül voit le jeune homme avec les yeux humains, un jeune homme pas trop grand, certainement il est écrit un peu plus tôt dans la Bible que c'était un beau jeune homme au beau visage, blond, et un peu, on l'a pris peut-être pour un poète, celui qui jouait aussi d'un instrument de musique, un musicien, un artiste. Et voilà que ce David, ce jeune homme, se lève contre Goya en prétendant qu'il va le combattre. Alors Saül dit, mais tu n'es qu'un jeune. Voyez-vous, il y a un terrible contraste entre les yeux de la foi de David Et la réaction de son frère par jalousie et l'incrédulité, l'incapacité totale du roi Saül, qui aurait dû être un exemple pour combattre les Philistins. David était plein de foi. Et je pense que dans la vie du chrétien, il y a des passages qui nous montrent que nous devons croire en la victoire. Paul disait, je ne sais pas vous, mais ce verset nous bouscule à chacun. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Vous n'avez jamais murmuré devant Dieu dans les circonstances difficiles, où vous êtes jamais plaint, vous n'avez jamais eu de rancœur ou d'amertume ou de mauvais sentiments. Où est Jésus dans ce cas-là? Le peuple se plaignait parce qu'il n'avait pas d'eau. Alors ils sont arrivés aux eaux de Mara. Ils se sont plaints encore parce que Mara signifie amertume, mais ils ont bu de l'eau amère. Et c'est quand Moïse a mis le bâton dans l'eau, qui est le symbole de la croix de Jésus, que l'eau est devenue purifiée et buvable. Ainsi, Jésus, par sa croix, peut transformer nos vies amères en douceur et bonheur de vie. Paul dit aussi, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et Jean dit, parce que tout est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais pourquoi donc Saül n'avait pas l'âme à combattre? Parce qu'il n'était pas dans la foi. Ce n'est pas que les promesses de Dieu n'existaient pas pour le peuple d'Israël. Laissez-moi vous lire ce que Dieu a dit en Deutéronome 20 au sujet de la bénédiction qu'il voudrait donner à Israël. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Qui peut être traduit par pour vous délivrer. Ainsi, David avait les yeux de la foi, tandis que Saül regardait à lui-même et à ses incapacités. Quand les chefs du peuple ne sont plus en communion avec Dieu, ils ne peuvent amener le peuple qu'à la défaite. La troisième caractéristique de la foi de David, c'est une foi courageuse. Il se présente devant Saül, sans complexe du tout, et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est incroyable cela. Tout le monde est découragé. Personne n'ose aller défier Goliath. Et voilà qu'un jeune homme se présente devant Saül. Mais quelle assurance, mais quel courage. Et on chantera, j'espère, après le chant avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu donne le courage au-delà de toute frayeur. Lorsqu'on a les yeux fixés sur Jésus et Dieu Tout-Puissant. La quatrième caractéristique que j'aimerais souligner, c'est que la foi est téméraire, basée sur l'exercice de la foi au quotidien. Il est écrit ici que David, pour témoignage de sa force, celle de Dieu, que Dieu lui communique, il dit « Mais j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours, et Dieu me délivrera des griffes du lion, de la patte de l'ours, face à Goliath, de la même façon. » Waouh, quelle assurance! Mais j'aimerais vous dire que face à des difficultés, souvent, la foi que nous exprimons face à une plus grande difficulté est le reflet de la foi que nous avons jour après jour dans notre marche quotidienne. Si nous avons l'habitude d'avoir des victoires jour après jour face à la tentation, aux problèmes, n'est-ce pas, qui sont les problèmes humains, il y a toutes sortes d'épreuves. Alors le jour où il arrive une adversité plus grande, nous allons pouvoir l'exprimer, notre foi, avec assurance pour vaincre, notamment le malin. Dieu est puissant. Moi, j'aime beaucoup David comme personnage. C'est un homme de foi, un homme très courageux, qui a dû combattre toute sa vie, mais qui est resté toujours attaché à Dieu. Il suffit de lire, n'est-ce pas, les psaumes. Aussi, donc, la foi est non seulement téméraire, mais elle est pleine d'assurance. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il n'y a plus d'autre solution, donc on prend celui qui se présente. Et puis finalement, la sixième caractéristique que j'aimerais souligner ici, c'est que la foi victorieuse est une foi qui agit avec liberté, parce que cette liberté vient du Saint-Esprit. Saül dit, ben voilà, le candidat, je vais lui mettre mon armure, et Saül commence à se laisser faire, à mettre l'armure de Saül, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il peut même plus marcher, tellement que cette armure est pesante. Ah, certainement, sur cette armure, il y avait peut-être des médailles de victoire, vous savez, comme les généraux, les capitaines, les lieutenants reçoivent parfois des médailles de mérite. C'est Napoléon qui a commencé ça pour motiver ses troupes. Eh bien, David lui dit non, non. Il s'est laissé complètement dépouiller de ce qu'on voulait lui donner, parce que c'était la raison humaine. C'était la façon humaine avec laquelle les gens espéraient qu'il allait combattre Goliath. Il s'est défait de tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher sa fronde, sa gibecière et 5 pierres. Oh, un bâton devant un géant. Un bâton devant un géant. 5 pierres devant un géant. Une fronde. Avez-vous déjà joué à la fronde? Moi, quand j'étais enfant, je confesse que j'étais puni parfois par mes professeurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de la classe, quand j'étais un peu coquin, je jouais à lancer des papiers avec ma fronde, n'est-ce pas? Ça dérangeait la classe, donc quand le prof m'a vu, Viguier à la porte. Et donc c'était humiliant, mais bon, j'ai appris après quand même à faire plus attention. Mais j'étais un peu coquin quand j'étais jeune. Et tout ça c'est pour nous détendre un petit peu. Au milieu du message, quelque part. Mais la fronde, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous, la façon dont David faisait, ça ne devait pas être facile. Eh bien, David a choisi ses armes à lui. Parfois, le légalisme ou le mysticisme ou certaines formes de foi, d'expression de foi, voudraient nous être imposées pour vivre la vie chrétienne comme d'autres ont pensé pour nous. Mais la vraie liberté est celle que communique le Saint-Esprit. La vraie liberté et la victoire que Dieu veut nous donner, c'est ce que Dieu nous met à cœur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous ne sommes pas contraints, nous sommes joyeux dans la vie chrétienne parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc débarrassons-nous de tout ce qu'on pourrait nous imposer d'artifices qui ne seraient pas de Dieu. Voici ce que dit un commentateur au sujet de ce dépouillement. Il devait apparaître clairement la raison pour laquelle David s'est dépouillé de cette armure. Que la victoire sur Goliath était faite par la foi, montrant ainsi que Dieu accomplit ses œuvres avec les instruments les plus faibles et les plus méprisés aux yeux du monde. Pour accomplir une tâche, on ne doit pas se soucier au premier abord de la qualité des moyens utilisables, mais de leur adéquation. L'armure de Saül était vraisemblablement parée d'éléments les plus nobles, dotée d'une solidité à toute épreuve. Quelle pouvait donc être la motivation de David pour ne pas l'utiliser? C'était la foi en Dieu, en la prière, en la droiture, toute l'armure de Dieu et la communion en Christ. Vous êtes d'accord avec moi que face à l'adversité, des fois, nous nous agitons, nous essayons de nous délivrer. Nous essayons de trouver des moyens humains de délivrance. Jusqu'à ce qu'on apprenne à aller au pied de la croix et dire « Seigneur Jésus, prends mon fardeau. » Parce que nous savons que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos se trouve en Christ, la vraie délivrance se trouve en Christ. La septième caractéristique que j'aimerais souligner ici, c'est que c'est une foi qui est agréable à Dieu, qui regarde à Dieu, qui cherche la gloire de Dieu. David, face au mépris de ce Goliath, de ce géant, dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Voyez-vous comment David voit la perspective de tout ça? Il dit, mais ce Goya, il insulte mon Dieu. Il insulte l'armée de Dieu. Donc j'y vais par la foi, parce que Dieu va être avec moi. Si aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Quelle assurance! Quelle assurance, n'est-ce pas? C'est incroyable ce que la foi en Dieu peut donner comme courage et assurance. Et proclamer ça avant d'aller combattre, moi je pense qu'il était rempli du Seigneur pour dire cela, n'est-ce pas? C'est pas de la présomption chez David. C'est une foi qui est pleine d'assurance. Et puis c'est une foi qui est zélée. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait Goya? Il commence à s'avancer devant David. Vous savez ce qu'il fait David? Lui, il court vers Goya. Wow! Face à des adversités, des fois, on a plutôt envie de quoi faire? De tourner le dos, de fuir, de pas regarder en face le problème. Lui, David, il court vers Goya. Quel zèle! Quelle puissance! Quel courage! Quelle témérité! Et puis, j'allais dire aussi que c'est une foi qui vise juste. Juste un instrument, un caillou. On dit que les cinq pierres représentent la première pierre pour Goya. Il semble que Goya avait quatre autres frères qui étaient des géants aussi. C'est possible, enfin, c'est une petite interprétation possible de ces cinq pierres. Mais je ne crois pas que David a essayé plusieurs fois. Dans les dessins animés sur YouTube, on voit que David a essayé plusieurs fois. Enfin, il a pris la bonne pierre et a tué Goya. Je pense que la première fois, il a fait mouche. Dès la première pierre, il a tué Goya. Parce que c'est Dieu qui a dirigé la pierre avec l'adresse certainement que Dieu a utilisée de David. La foi, c'est une foi qui donne du zèle et qui vise juste au bon endroit et qui frappe l'adversaire au bon endroit. Et puis enfin, la foi donne une victoire absolue. Non seulement il a tué David, il a coupé sa tête. Alors bon, heureusement j'ai pas d'image pour ça, n'est-ce pas? Rassurez-vous. Mais il a coupé la tête, il l'a présentée à Saül, voilà mon trophée à moi, jeune homme de 17 ans à 20 ans, voilà mon trophée, voilà celui qui vous, j'allais dire bavait, ça c'est québécois, qui vous méprisait, qui vous jetait un défi, voilà celui-là, le géant là, qui vous faisait trembler, voilà sa tête, il n'est plus là. Et les Philistins fuient, ils avaient dit on vous sera servi, pensez donc, ils fuient comme des lapins. Ils ne veulent pas faire face et finalement, c'est Israël qui les poursuit et qui les extermine. Alors j'aimerais, pour terminer, qu'on se pose trois questions. Quels sont les géants auxquels nous devons faire face dans la vie en général? Contre quels géants peut-être combattez-vous en ce moment? Et puis quels sont les principes tirés de ce texte que nous pouvons appliquer pour combattre les géants de la vie? On va appliquer ce texte. Bien sûr que nous savons que nous avons trois ennemis. Jusqu'à notre mort, nous aurons ces trois ennemis. Satan, le monde et la chair. Satan, il est écrit en Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En France, on doute parfois que Satan existe et que Dieu existe. Nous allons en Afrique... Et je suis allé en Afrique, je peux vous dire que la plupart des gens que j'ai rencontrés, peu importe quelle foi ils ont, ils savent que Dieu existe, ils savent que le diable existe. L'autre ennemi que nous avons, c'est le monde. La Bible dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde, c'est comme un courant. La Bible dit d'ailleurs que Satan est le prince. C'est comme un courant qui veut nous entraîner dans toutes sortes de passions, de convoitises, qui n'ont rien à faire avec Dieu et la foi. Et puis il y a la chair et ses passions, n'est-ce pas? C'est pour ça que Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair peut produire beaucoup de choses dans nos vies. La seule façon d'être purifié, c'est par le sang de Jésus et de se laisser diriger par la vie de l'Esprit, marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, quels sont peut-être les géants auxquels vous faites face, auxquels on peut faire face? Les géants à vaincre, les impasses de nos vies. Premièrement, j'ai marqué un combat spirituel particulier. Nous avons beaucoup de mal dans notre société ou même dans nos églises à partager vraiment des difficultés que nous pourrions avoir qui sont le reflet d'un combat spirituel. Dans l'église en général, il n'y a pas beaucoup de membres qui sont prêts à partager de vraies difficultés. Pourtant, le combat spirituel existe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et parfois, nous laissons des frères et des sœurs combattre dans des moments difficiles, alors qu'ils auraient tellement besoin de prière. Je me souviens d'un frère, quand j'étais tout juste arrivé à Toulouse, qui est venu me dire, voilà, j'ai ce combat-là. Ah, c'était pesant pour lui. Et grâce à Dieu, nous avons prié ensemble et il y a une libération qui s'est faite immédiate. C'est la puissance de Dieu, c'est pas nous. Hein. Nous n'avons aucune force par nous-mêmes. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre Satan. Alors soutenons-nous les uns les autres. Ne nous laissons pas entraîner par le père du mensonge. C'est incroyable comme Satan peut susciter des mauvaises pensées, même les uns contre les autres, parce qu'il est le père du mensonge. Arrêtons de croire au mensonge et croyons en Dieu Tout-Puissant qui est toute vérité. Alors nous avons aussi des circonstances adverses, diverses épreuves. Nous allons nous retrouver tous et chacun là. Des blessures de l'âme ou de l'esprit qui n'arrivent pas à guérir. La colère, l'amertume du cœur, la rancœur, l'inquiétude, l'incapacité de pardonner, l'incrédulité, l'incompréhension, peut-être une tentation plus forte que tout. Les passions de la jeunesse, la sexualité, la pornographie, la drogue, une addiction particulière. Écoutez, Dieu peut vaincre la pornographie, il suffit juste de ne pas la regarder, d'abord, et de croire que Dieu est plus puissant que ses addictions, qui sont malheureusement aujourd'hui le lot de beaucoup, semble-t-il, dans les statistiques. Dans notre génération, on était bien protégés. Mais dans la nouvelle génération, il y a beaucoup de tentations dans ce domaine. La paresse, la solitude, le célibat, l'isolement, la peur, l'angoisse, la crainte, les échecs de la vie, les échecs dans les études ou les difficultés dans les études, la mésaventure sentimentale. On dit qu'un chagrin d'amour prend au moins 2 ans à guérir. Et il y a parfois des jeunes hommes et de jeunes femmes qui passent par des chagrins d'amour. L'égoïsme, l'ambition, l'orgueil peut être une montagne terrible à juste voir se déplacer. La maladie, la fatigue, le découragement, la dépression. Et j'aimerais ajouter, si vous me permettez, la mort et l'éternité. Un disciple de Freud, Jung, disait que l'homme ne peut vivre que lorsqu'il est prêt à mourir. Tant qu'on n'a pas résolu et faire face à l'avenir et à la mort que chacun de nous devra vivre, on n'est pas prêt à vivre. Eh bien, la bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est que si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, la Bible dit que vous allez vivre et ressusciter pour l'éternité auprès de Jésus. C'est ça, vaincre la mort. C'est croire, c'est pas que le croyant ne meurt pas physiquement, il meurt. Mais il a l'assurance que s'il devait mourir, il serait au ciel, non pas sur la base de ses mérites. Comme a dit Joanne si bien ce matin en lisant le texte, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, tout ce qu'on peut faire, mais c'est par la foi, par la grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est l'œuvre de Dieu à 100%. Il n'y a aucun homme qui peut prendre la gloire. Quand on est sauvé, on donne gloire à Dieu. Et quand on a la joie de voir d'autres se tourner vers Dieu, on donne tous la gloire à Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu à 100%. Amen. Êtes-vous prêt à faire face à la mort et à l'éternité? Alors j'aimerais, pour nous consoler, nous donner en résumé maintenant les principes tirés de ce texte que nous pouvons appliquer à nos vies lorsque Dieu permet que des géants nous font face. Premièrement, quand nous sommes face à l'adversité, ne pas être effrayés lorsque ces géants se présentent à nous, mais réagir avec foi. Dieu permet que des géants nous visitent ou frappent à la porte. On se comprend, de nos vies. Deuxièmement, dans sa souveraineté, Dieu a un plan pour nous en sortir. C'est la façon avec laquelle Dieu a envoyé David pour ensuite combattre Goliath. C'est dans sa souveraineté que le père, sans savoir ce qu'il faisait, a envoyé son fils pour aller dire bonjour à ses trois frères. Et Dieu a utilisé cela parce que Dieu est souverain. Troisièmement, pour cela exercer notre foi au quotidien en vue des jours difficiles. Le moment où on a une épreuve et la façon avec laquelle on réagit est le diagnostic de ce qui est réellement notre foi. Nous pouvons réagir de différentes façons, mais si notre foi est exercée au quotidien, le moment de l'épreuve, alors nous réagissons fermement avec foi et tant que possible, le plus de fois possible, n'est-ce pas? Aussi, j'ai marqué ne pas combattre par nos propres armes. Celle de l'intelligence, comme on voulait mettre l'armure de Saül, les côtés humains, celle de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser notre intelligence, notre volonté, nos émotions. Mais ces armes face à l'adversité, aux géants, ce n'est pas nos raisonnements qui nous délivrent. C'est la puissance de Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne pas combattre avec nos propres armes, intelligence, raisonnement humain, effort humain, de la propre volonté, celle de la psychologie humaine, mais combattre avec celle que Dieu met à notre disposition, la parole et l'Esprit de Dieu. C'est par ce livre que notre foi est affermie et que nous croyons en Dieu et que nous le voyons agir dans nos vies et qu'il nous accorde sa paix, sa joie, sa présence. Quelle grâce de connaître le Seigneur Jésus, quelle bonté de sa part. Comprendre que seule la puissance de Dieu nous délivre de nos géants. Et puis, avoir l'assurance que Dieu combat pour nous, croire en la victoire, crier à Dieu et l'adorer. Alors, j'aimerais vraiment terminer en vous donnant un exemple, juste courtement. Il y aurait beaucoup d'exemples d'hommes de Dieu dans l'Ancien et Nouveau Testament qui ont fait face à une situation impossible. D'accord? Impossible. Moïse avait conduit le peuple, sorti d'Égypte, l'a amené par le chemin de Dieu, qui était celui où tout simplement on voyait tout le peuple circuler. Ils arrivent face à la mer. D'un côté, la mer infranchissable. De l'autre côté, l'armée d'Égypte qui s'est ressaisie pour aller combattre et exterminer tout le peuple qui était sorti d'Égypte, de l'esclavage. Les chars de Pharaon, toute une armée avec le Pharaon et la mer de notre côté. Et voilà ce que dit Moïse par la foi. Oh, qu'est-ce que j'aime ce passage en Exode 14. Moïse répondit au peuple, encore les yeux de la foi, comme David, n'oubliez pas. Ne craignez rien, restez en place. Oh, ne fuyez pas donc, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la mer. Voilà, merci Olivier. Il a ouvert la mer. Et tout le peuple ainsi a été délivré. Nous faisons tous face à des géants dans nos vies. Seule la foi en Christ peut les vaincre. Et la Bible nous affirme, nous avons tout pleinement en Christ, disait l'apôtre Paul. Est-ce que nous le croyons réellement? Prions.